Bonjour à tout le monde. Nous sommes maintenant, encore une fois, et c'est toujours un bonheur, au premier jour de la fête des pains sans levain. C'est un grand sabbat annuel et ça marque le début du cycle des merveilleuses fêtes de Dieu. C'est un grand jour. Hier soir, on a célébré la soirée mémorable qui a été vraiment très encourageante, qui a été une belle occasion. Et aujourd'hui, bien, on est rendu à célébrer cette belle fête devant Dieu et à apprendre ses voies et à être encouragé parce que sa parole nous montre. Allez dans Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, c'est le passage justement où Dieu parle de cette fameuse soirée mémorable qu'on doit célébrer. Exode, chapitre 12, versets 40 à 42. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est comme hier soir, donc les Israélites sont sortis de leur captivité d'Égypte à cause des miracles que Dieu a fait pour eux. Verset 42, « Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. » Et nous sommes les descendants de la nation d'Israël. Bien sûr, sur le plan spirituel, ce n'est pas seulement des Israélites de descendance comme telle, mais ce sont aussi des Israélites spirituels, parce que maintenant Dieu appelle dans son Église, dans sa famille, des gens de toute nationalité, de tout nom. Et on sait par la Bible qu'ils sont partis de la ville de Ramsès, comme hier soir. Et si vous regardez dans l'histoire, la ville de Ramsès, c'est eux qui l'avaient bâtie, cette cité-là, pendant qu'ils étaient esclaves en Égypte. Et ça a dû être des travaux terribles. Exode chapitre 13 maintenant, juste un peu plus loin. On va lire à partir du verset 21, versets 21 et 22. « L'Éternel allait devant eux lorsqu'ils sont sortis. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. » afin qu'ils marchent jour et nuit, donc ils avancent régulièrement. Verset 22, « La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu durant la nuit. » Alors Dieu a manifesté directement à ce moment-là sa présence. On sait par la Bible que c'était le Christ lui-même qui était et dans la colonne de feu et dans la colonne de nuée. Et ça nous montre que Dieu était déjà avec eux et il les conduisait hors d'Égypte. C'est lui qui les a conduits hors d'Égypte, dans leur marche vers la mer Rouge. Et cette marche-là s'est déroulée durant les jours de la fête des pains sans levain, jusqu'au septième jour, là où ils ont traversé la mer à ce moment-là. Dieu les a protégés, les a guidés. Vous savez, il y avait beaucoup de raisons d'être reconnaissants, mais nous aussi, on a beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Parce que Dieu nous a appelés à sortir de nos anciennes façons de faire et à sortir du monde avec ses traditions, avec ses façons de faire qui sont contraires aux voies de Dieu. Dieu nous a libérés, nous a appelés à une libération extraordinaire. Et ceux qui sont baptisés ont pris la Pâque, il y a quelques heures dans le fond, ont pris la Pâque et maintenant, on célèbre le premier jour de la fête des pains sans levain. Et il y a de quoi se réjouir. Il y a vraiment de quoi se réjouir. Parce que Dieu nous a sortis aussi de l'Égypte. Et il est en train de continuer à le faire. Et si nous sommes fidèles, Dieu va continuer à nous amener et il va nous amener jusqu'au bout. Parce qu'il ne nous a pas amenés pour nous laisser tomber en cours de route. Absolument pas. Si nous n'arrivons pas au but, la faute sera seulement sur nous. Parce que lui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour y arriver. Et vous savez une chose? Eux, les Israélites, se dirigeaient vers où? Vers la terre promise. Hein? Dieu leur avait promis une terre promise physique, où ils allaient avoir un bon pays où coule le lait et le miel et tout ça. Nous, c'est beaucoup plus que ça. Parce que Dieu nous oriente vers une terre promise spirituelle. Il nous oriente vers le fait de recevoir un jour la vie éternelle, de faire partie de sa famille, de faire partie de son gouvernement et d'aider le reste des êtres humains à le connaître, en les guérissant, en les enseignant, en les encourageant. Voyez-vous, c'est ça le but, c'est ça l'objectif de Dieu. Et c'est quelque chose de fascinant qui dépasse l'imagination humaine. Hériter le royaume, hériter la vie éternelle, hériter dans un premier temps l'administration de la terre et plus tard des choses extraordinaires qui vont venir par la suite. Et si vous y pensez comme il faut, bien sûr, le thème des pains sans levain, c'est notre purification, de continuer à nous purifier. Mais le thème en même temps des pains sans levain, c'est notre voyage vers la terre promise, vers la vie éternelle, vers le monde de demain, vers le monde qui s'en vient. Le titre de mon message aujourd'hui, l'assurance de vaincre et d'entrer dans le royaume. Et je vais vous montrer par mon message qu'on peut avoir, même en tant qu'être humain maintenant, cette assurance, cette certitude d'entrer dans le royaume. Et je vais vous montrer comment on peut faire ça. Comment on peut arriver à avoir cette certitude-là, quelles que soient les circonstances. Et la base de ça, c'est de garder les yeux sur ce but-là chaque jour de notre vie, quelles que soient les circonstances, dans notre cheminement vers l'héritage qui nous attend. Allez dans Matthieu, chapitre 6. Vous pouvez garder votre place dans Exode, on va revenir. Allez dans Matthieu, chapitre 6, s'il vous plaît. Ici, le Christ fait un reproche à ses disciples. Et parfois, ce reproche-là peut s'appliquer à nous aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'on en prenne conscience aussi. Alors, Matthieu 6, on peut lire le verset 25, juste pour voir un peu le contexte. « C'est pourquoi je vous dis, c'est le Christ qui parle, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Allez maintenant au verset 30. « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, » Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? » Alors ça, c'est le reproche qu'il leur faisait. Et nous, on a besoin d'avoir cette foi-là pour maintenir la marche et pour garder l'assurance, la confiance qu'on va y arriver. Mais je vous rappelle que ce n'est pas notre foi à nous. Notre foi humaine, elle ne vaut pas grand-chose. C'est la foi du Christ qu'on doit avoir en nous. Et c'est cette foi-là qu'on doit demander à Dieu. C'est cette foi-là qu'on doit demander à Dieu. Et c'est cette foi-là qui est tellement puissante. Et après ça, il précise des choses. Il dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Mais oui, pourquoi ce sont les païens, ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu? Parce qu'ils ne peuvent pas compter sur le vrai Dieu. Ils ne sont pas en rapport avec lui, ils ne le connaissent pas. Alors, ils doivent compter absolument seulement sur leurs moyens à eux. Ils doivent rechercher ces choses-là, mettre ça en priorité. Mais nous, ça ne doit pas être notre priorité. Dieu va s'en charger. Bien sûr, il faut faire preuve de sagesse dans l'administration des choses, dans la prévention et ainsi de suite. Et il dit, « Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. » Il le sait. C'est un bon papa qui voit les besoins de chacun. Et il dit après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? « Cherchez premièrement le royaume. » Les yeux sur le but. Et la justice de Dieu. Donc, pratiquer ce qui est juste, pratiquer les lois de Dieu, les mettre en pratique, changer de vie. On ne peut pas avoir un sans l'autre. Si j'ai seulement les yeux sur le royaume en disant « je veux aller là », mais que je ne pratique pas les lois de Dieu de toutes mes forces en demandant son aide pour y arriver, ça ne vaut pas la peine. Il faut que les deux soient là. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et voyez-vous, dans ce sens-là, le fait de pratiquer les lois de Dieu, ça se développe. Et plus on le développe, plus on s'applique à le faire, plus ça devient une seconde nature. On dit ça, hein, quand c'est une seconde nature, quelqu'un, ça devient naturel de le faire. Mais nous, ça doit aller plus loin que ça. C'est que si on fait ça jusqu'au retour de Christ, il va nous donner que ça devienne notre première nature, notre seule nature. On aura la nature de Dieu totalement en nous à ce moment-là. Maintenant, je reviens à Exode 14. Et vous allez voir, c'est fascinant. On va voir les événements de leur sortie d'Égypte. Exode 14 et le verset 8. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'ils ont quitté Ramsès, qu'ils ont commencé à quitter l'Égypte? Verset 8, Exode 14, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. » roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Quand ils sont sortis, là, cette nuit-là, ils avaient la main levée, ils étaient contents, ils étaient heureux, ils étaient enthousiastes. Et Dieu endurcit le cœur de Pharaon, qui part à leur poursuite. Humainement, on peut dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut les délivrer, puis en même temps, il permet que Pharaon parte à leur poursuite? Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il y a toujours un but à ce qu'il fait. Ce qu'il a fait, dans le fond, c'est qu'il les a testés. Il a testé son peuple pour voir où était son cœur. Même chose que Dieu fait avec nous. Nous ne sommes pas encore rendus dans le royaume. Le Christ n'est pas encore revenu. Et Dieu permet que sur notre route, il y a des obstacles, il y a des contradictions, il y a des déceptions, il y a des pertes, il y a toutes sortes de difficultés parfois. Et ça aussi a un but, parce que Dieu nous teste également. Il veut qu'on soit de tout cœur avec lui et qu'on apprenne à lui faire confiance en toutes circonstances. Ça, c'est marcher avec Dieu. Nous sommes sur la route vers le monde de demain. Il faut se rappeler qu'il y a une colonne de feu et une colonne de nuée qui nous guide. Elle n'est pas visible à l'œil nu, mais le Christ est dans ceux qui ont été baptisés, qui ont reçu son Saint-Esprit, et le Christ est avec ceux que Dieu appelle maintenant et qui sont en marche vers le baptême. Sans ça, ils ne comprendraient pas. Quand une personne est appelée à l'Église et qu'elle commence à découvrir la splendeur du plan de Dieu, c'est parce que Dieu lui donne un peu de son esprit avec elle pour qu'elle comprenne la vérité et qu'elle se mette en marche. Exode 14 et le verset 13 maintenant. Et on sait que les Israélites se sont tout de suite détournés de Dieu. Ils ont oublié tous les miracles que Dieu venait de faire, y compris les sortir de ce pays-là. Devant le nouvel obstacle de Pharaon qui approchait, ils ont eu peur. Exode 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Et c'est bon quand on prend conscience que toute délivrance nous vient de Dieu, les plus grandes comme les plus petites. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ou les obstacles, ou les épreuves que vous voyez aujourd'hui dans vos vies, on peut le dire de cette façon-là, vous ne les verrez plus jamais. À un moment donné, elles seront tout à fait terminées et elles seront choses du passé quand vous serez rendus dans le royaume. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Autrement dit, ne vous inquiétez pas. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et Dieu va se charger du reste, comme on a vu tantôt. Et parfois, c'est la même chose pour vous que pour moi. Parfois, on se retrouve dans des problèmes où il n'y a pas d'issue. On ne voit pas comment telle situation peut se régler. Parfois, il n'y en a pas d'issue. On se sent écrasé, on ne voit pas la porte de sortie, absolument pas. Et c'est à ce moment-là, je dirais, qu'il faut prier celui qui est décrit dans Éphésiens 3, et le verset 20, lorsqu'on dit « Celui qui peut faire, par la puissance, qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou pensons. » Quand il y a ce genre de situation-là, même les situations moins graves, on doit lui remettre toutes choses entre les mains. Mais quand il y a des situations extrêmes, sans issue, il faut prier celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, la colonne de feu, la colonne de nuée, au-delà de ce qu'on pense ou ce qu'on peut imaginer. Là est notre confiance. Là est notre assurance. Humainement, on n'est pas comme ça au point de départ. Mais il faut le développer. Et plus on le fait, plus on voit les réponses de Dieu, plus on devient enthousiaste et plus nous devenons remplis d'assurance. Vous savez, il n'y a aucun problème qui est trop grand pour Dieu. Aucun problème n'est trop grand pour Dieu. Et il faut que nous habituions à mettre nos problèmes, nos difficultés, nos craintes, nos appréhensions dans les mains de Dieu et lui laisser. On en parlait sur l'heure du repas. Lorsqu'on confie à Dieu nos problèmes, nos difficultés, il faut s'habituer à repartir après notre prière en disant « Dieu a les choses en main, je n'ai plus à m'inquiéter. Je suis peut-être inconfortable dans la situation qui est encore là, mais je n'ai plus à m'inquiéter comme avant parce que j'ai remis au Tout-Puissant mes problèmes et je lui ai demandé d'intervenir pour moi. » Vous savez, parfois on est inquiet. Il y a des gens qui sont beaucoup stressés parfois un peu déprimés. Parfois, on a l'esprit abattu. Certains éprouvent même de la panique. Mais c'est le seul moyen d'en sortir véritablement. Dieu est notre grand guérisseur, notre protecteur, notre soutien, notre refuge, notre haute retraite, celui qui prend soin de chacun de ses enfants avec une affection extraordinaire. Mais je sais qu'humainement, c'est pas évident, c'est pas facile à faire. Mais il faut, en ça, demander la foi de le faire et puis passer à l'action. Ça demande l'action, de pratiquer, de laisser ça dans ses mains et de se détourner en disant « je lui laisse ». Il y a des décisions à prendre. Parce que si je lui mets mes problèmes dans les mains, je lui demande d'intervenir, et que je repars avec l'attitude de dire « qu'est-ce que je vais faire maintenant? » Non, laissez-lui dans ses mains. Demandez-lui de vous montrer quoi faire. Mais prenez la décision de lui laisser dans les mains. Parce que là, votre assurance va se développer. Et là, il va répondre aussi. Parce qu'il voit la confiance que vous lui faites. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 6. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. » Lui prend soin de vous. La réponse, c'est de là qu'elle vient. Regardez le verset 15 d'Exode 14. « L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? » Les Israélites se plaignaient déjà à ce moment-là, ils avaient peur. « Pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Voyez-vous, verset 16 à 18, « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà arrivé dans l'histoire, à laquelle ils pouvaient faire référence pour dire « Ah, ben ça va se régler comme de cette façon-là? » Absolument pas. Ça s'était jamais produit, ils n'avaient jamais connu ça. Comme il y a certains de nos problèmes, vous ne la connaissez pas, la solution. C'est une solution que vous avez peut-être jamais imaginée, mais que Dieu a en réserve pour vous, si vous lui faites confiance. C'est ça. Il y a des mers rouges qui se sont ouvertes dans la vie de plusieurs d'entre vous qui avaient été appelés dernièrement ou il y a plusieurs années. Des situations impossibles que Dieu a réglées de façon à laquelle vous ne pouviez pas penser. Et moi, c'est l'Éternel qui parle, je vais endurcir encore le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux dans la mer. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Et Dieu a agi. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, je vous emmène dans le futur, un futur très proche. Dieu va faire la même chose. Et il va faire éclater sa gloire en détruisant une immense armée qui sera bientôt étalé autour de Jérusalem dans la fameuse bataille d'Armageddon. Et Dieu va faire la même chose. Il va faire éclater sa gloire, comme il l'a fait à ce moment-là avec la plus puissante armée qu'il y avait sur la face de la terre. Le même Dieu va faire exactement la même chose. Il a agi et il a donné un grand miracle de délivrance à Israël. Regardez le verset 31, même chapitre. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et quand on fait confiance à Dieu, on voit sa main puissante contre nos problèmes et nos difficultés ou nos peurs ou nos faiblesses. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. J'ai envie de vous dire, rappelez-vous les temps où Dieu vous a appelé. Quel combat vous avez soutenu en vous fiant sur lui, alors que vous avez commencé à changer des choses qui était tellement évidente que les gens autour de vous se sont peut-être opposés à vous-même. Vous deveniez bizarre à leurs yeux. Ils ne comprenaient pas. Mais vous avez tenu bon, vous êtes là. Voyez-vous? La main de l'Éternel a été avec vous et il vous a donné la force dont vous aviez besoin parce que vous vous êtes fié à lui. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez fait. Mais c'est la main de l'Éternel qui vous a amené jusqu'ici, qui vous a protégé, qui vous a guidé, qui vous a délivré. Combien d'entre vous, je vous connais, ont été guéris au cours de leur vie de différentes choses. Et dernièrement, on a vu encore des guérisons que Dieu a faites. Et je sais qu'il va en faire de plus en plus alors qu'on approche de la fin. Il va manifester sa présence au milieu de l'Église. Combien de fois il vous a secouru? Combien de fois il nous a protégés? On s'est rendu compte qu'il nous a protégés. Combien de fois il nous a protégés et qu'on ne l'a pas vu? Parce que, étant donné qu'on fait partie de son plan, il veut nous amener à terme. Et il a mis sa main, ses anges nous ont protégés. Il nous a encouragés, il nous a répondu, il nous a montré la façon de sortir des problèmes. Et il nous a appris à lui demander. Parce que c'est une chose qu'on ne fait pas naturellement. mais qu'on doit aussi développer, lui demander en toutes circonstances, pour toutes choses, tout remettre entre ses mains. Et Dieu a répondu à plusieurs occasions. Il vous l'a répondu et il m'a répondu à moi aussi. Et c'est pour ça, je reviens au contexte d'Exode, regardez la joie qu'ils avaient et regardez comment Moïse a écrit les premiers versets d'Exode 15, 1 à 3. Et on appelle ça le cantique de Moïse et d'Israël. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. » Formidable! La délivrance et la victoire. C'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu leur a donné cette victoire-là. C'est lui qui est intervenu et c'est lui qui va intervenir pour vous et pour moi. Si nous faisons notre part, puis on va le voir tantôt, on a une part à faire et il faut rester fidèle dans cette part-là que nous avons à jouer. Dieu leur a donné la victoire et c'est lui qui donne la victoire aux chrétiens aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est joyeux aussi. C'est pour ça qu'il y avait une telle joie dans la solennité également de la cérémonie de la Pâque qu'on vient de vivre. Et c'est pour ça qu'il y a une telle joie au premier jour des pains sans levain de cette année. Parce que l'ensemble des membres de l'Église arrivent avec les expériences qu'ils ont déjà vécues avec le Dieu qui répond aux prières. Et cette confiance-là continue de se développer. Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Nous venons de renouveler notre engagement de servir Dieu, de marcher dans ses voies. Nous avons été donc réconciliés avec Dieu au moment de notre baptême. Et à mesure qu'on avance, lorsqu'on manque notre coup, on demande à Dieu de nous pardonner, de nous donner la force. Regardez ici, Romains 6, on va commencer au verset 1 jusqu'au verset 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et à sa face même, ici, la déclaration de l'apôtre Paul, ça dit que les lois ne sont pas abolies. Absolument pas. Au contraire, c'est parce qu'il y a des lois qu'on doit changer pour devenir conforme aux lois de Dieu. Et c'est des lois de bonheur, des lois de délivrance. Verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et voilà notre fête des pains sans levain. Le fait de marcher d'une nouvelle façon, d'une façon qui plaise à Dieu. Maintenant, je pose une question. Et ça, on doit tous la poser et revenir avec ça pour bien comprendre notre rôle, notre responsabilité. Est-ce que nous sommes vraiment engagés par rapport à Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment déterminés à rester fidèles à Dieu et à continuer cette purification-là avec son aide, en le suppliant? Vous savez, on ne doit pas dire, et c'est triste quand on entend ça parfois, on ne doit jamais dire, je ne sais pas si je pourrais y arriver. Quand on entend une phrase comme ça dans la bouche d'un membre d'Église, je trouve ça triste. Parce qu'à ce moment-là, ce que ça me dit, c'est que la personne regarde elle, regarde ses capacités. Et je comprends qu'elle tire cette conclusion-là, si elle regarde ses capacités à elle, parce qu'elle n'est pas capable elle-même d'arriver au royaume. Il faut que le Tout-Puissant l'amène au royaume. Il faut que le Tout-Puissant l'aide à se purifier, l'aide à vaincre ses faiblesses. Ce n'est pas par elle-même qu'elle peut y arriver. Mais voyez-vous, si on dit, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver, ce n'est pas exact. Il faut que je dise, Dieu m'a appelé, Dieu m'a pardonné au moment du baptême, Dieu travaille avec moi, je vais y arriver, justement parce que ce n'est pas par ma force. Mais il m'a appris à compter sur lui. Et je peux compter sur lui en voyant tous les exemples qu'il me donne. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on va au sabbat chaque semaine, à l'Assemblée, à la Sainte Convocation, même si on n'est pas en forme à certaines occasions. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui viennent à l'Assemblée de sabbat et qui ont parfois des douleurs, qui ont parfois des migraines, mais vous êtes là. Pourquoi? Parce qu'il y a une sainte convocation. Vous auriez quand même votre migraine à la maison. Mais Dieu vous a convoqué à l'Assemblée de sabbat. Et j'ai déjà vu des gens qui sont venus à l'Assemblée de sabbat et leurs conditions de santé étaient vraiment pénibles. Mais ils ont tenu à venir. Qu'est-ce qui s'est passé avec le temps? Ils ont été guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu. Ils se sont confiés en Dieu. Dieu veut que je sois là, moi je vais y être. Même chose pour le royaume. Dieu veut que je sois dans le royaume, je vais y être. Pas par mes forces, mais par sa force à lui. Je vais y arriver. Même chose pour la fête des tabernacles. Parfois, on annonce que la fête s'en vient, qu'on doit faire les préparatifs. Et pour certaines personnes, c'est pas évident d'être capable d'y aller, de faire la planification qu'il faut. Mais je trouve ça beau quand je vois les gens disent « Moi, je vais être à la fête. » Je sais pas comment, mais je vais être à la fête. Pourquoi? Parce que c'est la fête de Dieu. Exactement. Vous savez, on vient de célébrer la Pâque, on vient de renouveler notre engagement, l'engagement qu'on a pris au baptême. Et ça a été quoi, cet engagement-là? Ça a été de lui donner notre vie. Il nous a rachetés par le sacrifice de Christ. Alors, on ne s'appartient plus. On lui appartient. Et là, on doit se soumettre à lui, développer son caractère, devenir de plus en plus comme lui. Et au baptême, on nous a montré qu'on consacrait notre vie pour lui appartenir, pour changer, pour nous purifier de plus en plus et pour développer son caractère. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Il ne faut pas se décourager. C'est le travail de toute une vie. Et il arrive parfois qu'on tombe encore, mais il faut se relever tout de suite et demander pardon et continuer. Mais garder les yeux sur le but. Il faut respecter le contrat. Parce que le baptême, c'est un contrat. C'est un contrat que nous avons signé dans le sang de Christ. Notre engagement de dire « Je vais t'appartenir jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Montre-moi à changer, aide-moi à être capable de changer. » Mais on doit respecter ce contrat-là. Et j'entrerai pas là-dedans, mais c'est un contrat qui a toute une dimension parce que, en même temps, c'est un contrat de mariage. Parce qu'on sait que le Christ, à son retour, va épouser son Église. Et nous sommes l'Église de Dieu, les membres qui forment le corps du Christ. Alors, on a signé un contrat envers l'époux qui s'en vient bientôt et qui va faire l'ouverture pour les noces de l'agneau, pour ceux et celles qui auront été fidèles jusqu'au bout. Alors, c'est pour ça que je mentionne ça dans ce sens-là, contrat de mariage, parce que dans un mariage, il y a un attachement profond. Il y a un attachement profond dans un mariage entre les deux personnes qui se sont choisies, qui ont décidé de se marier. Et il faut rester attaché l'un à l'autre quand on se marie, et il faut rester attaché à Dieu quand on a signé le contrat. Allez dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, on va lire le verset 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. C'est Dieu qui parle aux Israélites. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Rappelez-vous, Dieu nous a créés libres. On a un choix. Même quand Dieu nous appelle, le choix est à nous de répondre maintenant ou non. D'ailleurs, on sait qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire que dans tous ceux que Dieu appelle, ce n'est pas tous et chacun que le Christ choisit pour faire partie de son Église, pour les raisons que lui connaît. Mais il choisit un petit troupeau. Et ceux-là ont des plus grandes responsabilités sur leurs épaules que les autres qui ne sont pas appelés. Alors, il dit, « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Voici l'attachement. Aimer Dieu, lui obéir et s'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Pour eux, c'était la terre promise physique. Pour nous, c'est la vie éternelle dans la famille de Dieu. Parce que Dieu a fondé une famille. Dieu l'a fondé, sa famille. Le jour de la Pentecôte, Dieu a fondé une famille divine, une famille spirituelle, à laquelle il vous a associé personnellement et à laquelle il m'a associé personnellement, sous la nouvelle alliance qui a des promesses de beaucoup meilleures aux promesses de l'ancienne alliance. Rapidement, je vous les donne en passant, vous pourrez et allez lire vous-même la première promesse que Dieu a faite à ceux qui signeraient le contrat avec Christ ou la nouvelle alliance, c'est la promesse d'avoir le Saint-Esprit, la puissance nécessaire pour vaincre ce que les Israélites n'avaient pas. Alors donc, Dieu, par ça, nous donne le moyen d'arriver, comprenez-vous, d'arriver au royaume. Et c'est un moyen sûr, si on l'utilise, si on le met en pratique, parce qu'on reste toujours libre. Il dit « Choisis, j'ai mis devant toi la vie, la mort, choisis. » Mais plus que choisir, c'est qu'il faut maintenir dans notre choix et que notre choix reste actif, qu'on soit déterminé à continuer. Parce qu'on peut avoir choisi et avoir émotivement une bonne sensation de dire « Ah, Dieu m'a appelé, j'ai été baptisé, donc je fais partie de son Église, je vais aller dans le royaume. » Vous allez aller dans le royaume et je vais aller dans le royaume si je reste déterminé à continuer de me préparer, de me purifier, à compter sur Dieu. Alors Dieu a fait cette promesse merveilleuse sous la nouvelle alliance à laquelle il nous a appelés. Il nous a promis le Saint-Esprit qu'il nous donne actuellement. Et c'est un dépôt de la vie éternelle. Et deuxièmement, justement, il nous a donné la possibilité d'avoir la vie éternelle en mettant en nous, au moment du baptême, quand un ministre nous a imposé les mains, quand il a mis en nous son Saint-Esprit, qui est le germe, si vous voulez, de la vie éternelle. Formidable! Et c'est ça qui va nous permettre de naître dans sa famille lorsque le Christ reviendra et d'être transformé en être spirituel, si on est encore vivant, en un instant. Mais nous avons des choix à faire. J'insiste là-dessus. Nous avons des choix à faire et nous avons des efforts à déployer. Et c'est normal. Dieu ne veut pas avoir des robots dans son royaume. Il veut avoir des êtres libres qui ont choisi et qui mettent le prix. Parce que Dieu, lui, si vous regardez ça comme ça, Dieu, il a mis le prix. Il a donné son Fils unique. Et le Christ a souffert pour vous et il a souffert pour moi. Et le Père a souffert aussi. Il n'y a pas un Père qui voit souffrir son enfant comme Dieu a vu souffrir le Christ sans que ça lui fasse rien. On n'en parle pas dans la Bible, mais un jour on saura quand on pourra parler à Dieu lui-même pour voir comment il a vécu ça, ces choses-là aussi. Alors, on a des choix à faire, des efforts à déployer. C'est pas pour rien que dans Matthieu 11, le verset 12, c'est pas pour rien que c'est écrit « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. » Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce sont ceux qui sont zélés, ceux qui restent déterminés à supplier Dieu de les transformer puis de les aider à arriver au bout. Eux autres vont y arriver. Pourquoi? Parce que justement, ils ont ce zèle, ils ont cette ardeur, ils sont là de tout cœur. Ils voient la valeur de la perle de grand prix que Dieu leur a donnée. Et ils la valorisent et ils la considèrent comme précieuse. Et vous savez une chose? Tant que vous et moi, nous ne serons pas changés en êtres spirituels, rendus parfaits, parce qu'on sait qu'on sera rendu parfait seulement le jour où le Christ va revenir. C'est marqué dans la Bible. On sera rendu parfait seulement ce jour-là. Mais tant qu'on n'aura pas été changé en être spirituel, tant qu'on n'aura pas été rendu parfait, nous sommes toujours à risque. Nous demeurons toujours à risque. C'est pour ça que je reviens sur ce point-là. Il faut déterminer de rester ferme. Il faut continuer dans la décision qu'on a prise au moment de notre baptême. Il ne faut pas que ça se dilue tranquillement avec le temps ou avec les découragements qui peuvent venir ou avec les épreuves ou avec les tests. Au contraire, il faut maintenir la détermination, le zèle, tenir bon. C'est ça la persévérance pour atteindre le but. Comment? La Bible n'est pas compliquée. Et les moyens que Dieu nous donne ne sont pas compliqués. C'est en restant proche de Dieu. C'est simple, simple. En restant proche de Dieu, comme on a vu tantôt dans la sermonnette, par l'étude biblique à tous les jours, par la prière à tous les jours, en restant en contact avec Dieu régulièrement, par le jeûne, pas juste une fois par année, mais à différentes occasions, et par le fait de s'appliquer à mettre en pratique les lois de Dieu. C'est simple. Le plan n'est pas compliqué. C'est simple, simple, simple. Mais si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est attaché à notre Dieu. On est attaché au sceptre. On est attaché au Christ, la colonne de feu et la colonne de nuée, parce qu'il est là en nous et on travaille avec lui. Nos efforts, ça constitue aussi le fait de ne pas nous laisser distraire et détourner de notre but malgré les obstacles. Parce que parfois, Je devrais dire toujours, quand des gros obstacles arrivent, on regarde surtout l'obstacle. C'est notre première réaction. Mais il ne faut pas en rester là. Il faut tout de suite se retourner vers celui qui nous donne la force et lui demander son aide. Ne pas lâcher prise. Ne pas lâcher prise, c'est notre part de continuer à avoir un choix actif. Je vous donne un exemple d'attachement, de détermination puis de choix actif. L'ancêtre des Israélites, Jacob et sa Rachel. Vous vous rappelez l'histoire de Jacob? Jacob aimait Rachel. Il voulait épouser Rachel. C'était la sienne. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Il a travaillé 14 ans pour son beau-père pour avoir celle qu'il aimait, pour être capable d'épouser sa Rachel. Est-ce que c'est de l'attachement? Regardez tout ce qu'il a fait. C'est impressionnant de voir ça. Et c'était seulement sur le plan physique, ça. Nous, c'est à un niveau beaucoup plus élevé. Si on peut, sur le plan physique, faire tellement d'efforts parce qu'on s'attache à une personne, à plus forte raison sur le plan spirituel, puis à plus forte raison parce qu'on peut compter sur la puissance de Dieu pour être capable de faire. Voyez-vous la différence? C'est fantastique. Je vous dis ces choses-là pour que, justement, nous développions l'assurance qu'on peut arriver à vaincre et qu'on peut arriver au royaume de Dieu. Chacun des baptisés a des raisons beaucoup plus supérieures de rester attaché à Dieu, rester attaché à notre Sauveur et au but. Parce que, voyez-vous, on a été libérés par lui. On a été libérés par lui de toute notre vie passée. Toutes les fautes qu'on avait commises, au moment de notre baptême, Dieu a effacé tout ce passé-là. Et on ne doit pas nous revenir là-dessus, alors que Dieu l'a effacé et que pour lui, ça n'existe plus. Une fois qu'il nous a pardonné, nous, on ne doit pas revenir là-dessus. Et, je dirais, embarquer dans les pièges de l'adversaire pour se sentir coupable encore de choses passées. Alors que Dieu, lui, au moment du baptême, nous lave entièrement de notre vie passée et que ça n'existe plus, les fautes qu'on a faites. Quelles que ces fautes-là aient été. L'apôtre Paul était allé loin. Il avait participé à des meurtres. Sûrement plein d'autres fautes aussi, comme nous autres. Mais l'apôtre Paul était pardonné. Il était joyeux de ça, encouragé de ça, et c'est formidable. Mais c'est la réalité. Libéré de notre vie passée parce que pardonné. Libéré de l'esclavage, de deux façons. Dieu nous a libérés de la pénalité qu'on avait mise sur nos épaules parce qu'on a transgressé les lois. Puis on sait que la pénalité, c'est la mort éternelle. Dieu a enlevé cette pénalité-là parce qu'il a mis le sacrifice de Christ pour nous laver. Alors voyez-vous, il nous a libérés de cet esclavage-là. Si Dieu n'intervenait pas pour nous enlever cette culpabilité-là, il n'y avait pas de possibilité d'avoir la vie éternelle. Absolument pas. Parce que nos fautes mettaient un mur entre nous et Dieu. Imaginez un mur peut-être de 100 km d'épais, en acier solide, avec infiniment haut, qu'il n'y a pas de dessus. Dieu est de l'autre côté, moi je suis ici. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre Dieu? Rien, je ne suis pas capable. Il faut que Dieu enlève ce mur-là. Et ce mur-là est enlevé par le sacrifice de Christ. Voyez-vous la grandeur de la libération? Et là, je peux espérer avoir la vie éternelle parce que là, il me donne son Saint-Esprit quand je suis baptisé. Alors, on est libéré de l'esclavage, de la pénalité, et on est libéré de l'esclavage dans un autre sens. On est libéré graduellement de la domination du péché sur nous. Parce que le péché exerce un attrait sur nous. Et on peut se libérer de cette domination-là du péché par la puissance de Dieu. On peut sortir d'Égypte, et on peut sortir l'Égypte de nous. Parce que quand on sort de l'Égypte, on a encore en nous du levain qu'on a amené de là-bas. D'ailleurs, ça a été un des problèmes des Israélites. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils n'ont jamais sorti l'Égypte d'eux-mêmes. Ils ont gardé cette même mentalité. Tellement que, pas longtemps après, alors que Dieu avait fait tous ces miracles-là, avait ouvert la mer Rouge, les avait délivrés, tout de suite après, ils ont fait un veau en or et ils ont dit, « Voici, ça, c'est notre Dieu. » Voyez-vous, ils avaient emmené avec eux les dieux de l'Égypte. Ils étaient sortis physiquement de l'Égypte, mais ils n'avaient pas sorti l'Égypte d'eux-mêmes. Et nous, c'est ce que nous devons faire, sortir d'Égypte, sortir le péché de nos vies. Et quand Dieu nous libère de ça, de cet esclavage-là, sous toutes ces formes-là que je vous ai données, Dieu veut que nous devenions esclaves, mais un merveilleux esclavage, qui n'est pas négatif, Absolument pas. C'est une soumission volontaire à Dieu, à ses lois de liberté, puis à ses lois qui mènent au bonheur, qui amènent la paix d'esprit et qui donnent tellement un sens à la vie. On a été appelé pour entrer dans cette liberté-là. On peut appeler ça une forme d'esclavage, mais c'est un esclavage volontaire, c'est qu'on se soumet de tout notre cœur à Dieu pour faire sa volonté, pour accomplir son œuvre et pour préparer, on le sait, la délivrance de toute l'humanité. Parce que ça approche. Quand le Christ va revenir, tout le reste de l'humanité qui souffre tellement actuellement sera libéré des guerres, des violences, de la corruption, de la méchanceté sous toutes ses formes. Ça sera fini. C'est la promesse que Dieu nous donne. Alors nous, pour arriver là et pour être capable d'aider les êtres humains dans le monde à venir, nous, on doit continuer à nous purifier, enlever le levain de nos vies, vaincre nos faiblesses, vaincre Satan et vaincre la société de Satan qui exerce tellement de pression sur nous. Elle est autour, elle est partout, dans les médias, elle est dans tout ce qui se passe autour. Nous vivons, dans le fond, aux temps les plus difficiles de la société. Il y aura des temps un peu plus difficiles qui s'en viennent, mais on n'est pas loin de cette période-là. Ceux qui ont été appelés il y a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années n'avaient pas toutes les pressions mauvaises de la société que nous connaissons actuellement. Ça nous demande plus, et ça demande donc qu'on soit plus proche de Dieu et qu'on le supplie davantage. Il faut demander à Dieu d'avoir la force et d'avoir le courage qu'il faut, de voir nos fautes, être capable de changer nos fautes, par sa puissance encore là. Si je ne fais pas ça, c'est que j'aurai tendance à ralentir ma démarche spirituelle. Je vais moins croître spirituellement dans la grâce et dans la connaissance. Je vais avancer moins vite. Je vais peut-être même vivre dans le passé, regretter des choses, au lieu de regarder les belles choses qui s'en viennent. Et je peux devenir à ce moment-là encore esclave de ces choses-là. Et le fait de faire ça, ça m'empêche d'être complètement avec Dieu et ça m'empêche d'avancer vraiment. Je vous dis ça pour qu'on comprenne comment on réagit en tant qu'être humain et qu'on puisse faire les choses de bonne façon pour avoir l'assurance dont je vous parle. Et cette assurance-là, on peut l'avoir. Vous savez, au cours de mon ministère, j'ai parfois eu le bonheur de voir des beaux miracles. J'en ai vu de toutes sortes. J'en ai vu des beaux par rapport à la fête des pains sans levain, par rapport au fait que certaines personnes, à un moment donné, ont pris des décisions pour vraiment changer ce qu'il y avait à changer. J'ai vu des beaux miracles arriver à des gens qui n'avançaient plus, à un moment donné, spirituellement. Ils faisaient du surplace, spirituellement. Et ils devenaient insécures. Parce que quand on n'est pas totalement avec Dieu, on est insécure. Mais oui, on n'a pas complètement sa protection, on voit moins clairement les choses. Ces gens-là étaient devenus insécures, étaient devenus incertains spirituellement. Et là, parfois, la personne disait, « Je ne sais pas si je vais être capable d'y arriver. » Ça va jusque-là. Et il y a quelque chose à ce moment-là qui empêchait ces gens-là d'avancer. Il y a quelque chose qui les limitait. Il y a quelque chose dans leur vie qui les handicapait, qui avait besoin de voir. Une faute qu'ils n'avaient pas réglée, ou n'avaient pas vraiment travaillé pour vaincre et pour l'éliminer. C'était resté là. Mais ça les empêchait d'avancer. Ça les rendait insécures, ça les rendait incertains. Puis à un moment donné, j'ai vu des changements se produire chez ces gens-là. Et c'est tellement formidable de voir ça. Tout à coup, quand ils ont vraiment choisi, quand ils ont vraiment décidé, quand ils ont vraiment déterminé de passer à l'action pour vaincre, par la prière, par le jeûne, par le fait de s'éloigner de ce qui les amenait à pécher, s'éloigner des circonstances qui les amenaient à pécher, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que Dieu a répondu. On avait enlevé de la route ce mur-là qui était encore là et qui les séparait. Et quand on voit ça se produire chez quelqu'un, c'est fantastique. Parce que là, il y a une sécurité qui arrive, il y a une joie qui s'installe, puis il y a une assurance qui se développe. Ça ne peut pas faire autrement. Parce que Dieu répond. Dieu répond parce que la personne s'est tournée vers lui en lui disant, « Père, montre-moi ce que j'ai à changer, parce que je veux changer complètement. Je veux t'appartenir. Je veux pas qu'il reste de jardin secret dans ma vie. Je veux pas qu'il reste de choses qui ne sont pas réglées, parce que je sais que ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de voir clairement. » Et Dieu répond dans ce temps-là, parce que c'est selon sa volonté. Le Christ a dit, « Demandez ce que vous voulez, vous allez le recevoir, si vous demandez selon la volonté de Dieu. » Quand vous demandez une chose de même, c'est exactement selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Allez à psaume 32, s'il vous plaît. Psaume 32. Psaume 32. David a vécu une expérience comme ça. Psaume chapitre 32. David a dit, regardez bien ce qu'il a dit. Lui, à un moment donné, il y avait une faute dans sa vie qu'il ne voyait pas ou ne voulait pas voir, qu'il avait laissé de côté. On le voit par l'expression ici. Et à un moment donné, il dit à Dieu, « Tant que je me suis tu, tant que je ne t'ai pas parlé de ça, tant que je l'ai caché, tant que je ne l'ai pas vu, tant que je l'ai laissé à côté, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Qu'est-ce qui se passait? J'étais nerveux, j'étais anxieux, j'étais insécure, je me sentais pas bien, humainement parlant. Je gémissais toute la journée, tant que je me suis tu. Tant que j'ai pas reconnu devant Dieu que j'avais besoin de me purifier sur toute chose, de ne rien garder de l'ancien monde. Alors, psaume 32, commençons au verset 1 de David, cantique. « Heureux celui à qui la transgression est remise. » Quand Dieu nous pardonne, hein, c'est tellement une délivrance de savoir que Dieu nous a pardonné de nos fautes ou d'une faute qu'on a malheureusement commise encore. « À qui le péché est pardonné. » Verset 2. « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » C'est-à-dire que ça a été enlevé, donc Dieu ne place pas l'amende sur lui. « Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Ça va loin. On ne doit pas avoir de fraude dans notre esprit lorsqu'on parle à Dieu. On ne doit pas avoir de fraude lorsqu'on reconnaît nos fautes. On doit vraiment les reconnaître. Et on parlait de ça justement ce midi. C'est que quand je vais devant Dieu pour lui avouer mes fautes, il les connaît beaucoup mieux que moi. Et il voit à travers moi, je me plais à dire parfois comme il voit à travers d'un courant d'air. Parce que rien ne peut lui être caché. Alors, il vaut mieux que je lui demande de me montrer même ce que je ne vois pas, pour que moi je vois les choses comme lui les voit et être capable d'échanger. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Verset 3. Regardez, c'est ça que David dit ici. Tant que je me suis tu, tant que j'ai gardé le silence, que je t'en ai pas parlé, Dieu, que j'ai pas reconnu ma faute, ou que je t'ai pas demandé d'avoir un cœur droit devant toi, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je me sentais mal, je me sentais pas bien, je me sentais insécure. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Et on sentait moins Dieu à ce moment-là être avec lui. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. Voici qu'il s'est présenté devant Dieu en avouant ce qu'il avait fait, en reconnaissant avoir manqué son coup. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et à ce moment-là, l'insécurité, l'inquiétude, la culpabilité s'en vont. S'en vont parce que Dieu pardonne. Dieu est un Dieu qui est lent à la colère et qui aime à pardonner et qui veut nous amener à terme. Il ne nous a pas appelés pour qu'on manque notre coup. Il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est formidable. C'est formidable ce qui se passe. C'est que, qu'est-ce que Dieu nous montre dans sa parole pour qu'on suive ce chemin-là, pour être devant Dieu avec un cœur pur. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, je pense, David a dit dans Psaume 51, « Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé, que je cache rien à toi, que je te dise tout, que je te demande ton aide en toutes circonstances et surtout que je te demande de me donner de faire ta volonté en toutes circonstances. » Vous savez, on parle de la Pâque qu'on vient de prendre. Le monde en général considère la Pâque seulement comme le plan de Dieu, comme si ça n'irait pas plus loin. Même ils ont changé le nom de la Pâque pour les Pâques. Ça a été complètement modifié. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comme si c'était seulement ça, le plan de Dieu. Comme si le plan de Dieu s'arrêtait avec, j'oserais pas dire les Pâques, parce que ça n'a même pas de rapport. La Pâque, c'est célébrer la mort du Christ, alors que les Pâques, c'est célébrer sa résurrection, ce qu'il n'a jamais demandé de faire, qui est contraire aux directives bibliques. Mais certains pensent que, dans le christianisme traditionnel, qu'on est sauvé un jour, maintenant, dans notre vie présente, et qu'on est sauvé pour toujours, qu'on peut faire ce qu'on veut, et qu'on n'a pas à changer, ou qu'on n'a pas à se purifier. Mais c'est contraire à la Bible encore là. Ça ne tient pas la route. D'autres disent, une fois que vous avez accepté le Christ dans votre cœur, bien, vous êtes sauvé. Tout est réglé. On ne peut pas tomber, on ne peut pas perdre son salut. Non, on peut perdre son salut. C'est ça que je vous disais tantôt. Nous sommes à risque toujours. Et il faut absolument être vraiment déterminé. Allez dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Et le verset 25 à 27. « Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, ou toutes sortes de contrôles dans le grec. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible, pour avoir notre couronne dans le royaume. » Et le Christ a dit, « Faites attention que personne ne prenne votre couronne. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, mais je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Ça s'applique aux membres et ça s'applique au ministère aussi. On doit continuer à être ferme, à être déterminé. Et ça nous montre qu'il faut être plus engagé et plus déterminé que jamais. Vous savez, notre attitude, ça doit être « Je m'en vais vers le royaume et je vais y arriver. » Mais pas par mes forces. C'est là que je m'en vais. C'est là qu'est le but de ma vie. Dieu me l'a montré et Dieu m'a promis qu'il allait m'amener jusqu'au bout. C'est là que je m'en vais et j'y serai. Pas par mes efforts humains, mais par la force du Dieu qui a dit « Je ne te délaisserai jamais. » Je ne t'abandonnerai jamais. Et de Jésus qui a dit à un moment donné, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pensais aux Israélites en préparant le sermon, puis à nous aujourd'hui. On est les premiers fruits. On est les prémices de Dieu, le petit troupeau. Et dans ce sens-là, on regarde, nous, la terre promise spirituelle, le royaume qui s'en vient, la famille royale sur la terre qui va aider les nations, qui va guérir, qui va enseigner. Alors nous, en esprit, on voit le royaume. On est, pour ainsi dire, au milieu d'une génération qui ne comprend pas ça. On est des espions qui voyons l'avenir. Un peu comme les espions israélites qui sont allés explorer la terre promise physique à l'époque. Ils sont allés, eux, physiquement la voir. Il y avait un par tribu qui sont allés. Et nous, Dieu n'en appelle seulement quelques-uns et il nous donne de voir ce qui s'en vient, de comprendre son plan. Et c'est fantastique. Et on voit, pour ainsi dire, de loin la cité qui a de solides fondements. Et on voit le monde à venir. Les pains sans levain, bien sûr, c'est s'examiner, comme je disais tantôt, pour se purifier, mais c'est en même temps regarder vers la terre promise, pour être encouragé, vers le royaume, vers la famille de Dieu, vers l'héritage. Dieu nous donne de voir d'avance le monde à venir et de l'explorer. Allez à Nombre, chapitre 13. Ça vaut la peine, c'est tellement encourageant. J'ai eu du plaisir en revoyant ces passages-là, à faire le parallèle que je vous fais maintenant. Et c'est un grand encouragement. Eux, c'était bien sûr seulement sur le plan physique, mais nous, il y a beaucoup plus que ce qui est décrit ici. Nombre 13, on voit versets 1 à 8, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, c'était la terre promise, que je donne aux enfants d'Israël. » Alors, il dit, « Envoie un homme de chaque tribu, un homme qui est bien reconnu. » Et on voit ensuite, il donne la liste de ceux qui sont allés. Au verset 6, pour la tribu de Juda, Caleb. Et après ça, on voit au verset 8, pour la tribu d'Éphraïm, Osée, H-O-S-E-E. Et ça, c'est celui dont le nom a été changé en Josué. Vous voyez au verset 16, ça mentionne que ce nom-là a été changé en celui de Josué. Et vous avez la description ici de ce qu'ils ont vu dans la terre promise. Les 12 espions, ils sont allés tous les 12. Ils ont vu dans la terre promise des choses incroyables. Regardez le verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Vous imaginez l'abondance qu'il y avait à ce moment-là et les beaux fruits qu'il y avait. Parce qu'à l'époque, la terre n'était pas encore polluée comme les hommes ont réussi à la polluer comme on voit maintenant. La terre, dans certaines régions, produisait des récoltes extraordinaires. Et Dieu leur a montré comment c'était beau, cette terre-là. Ça a pris deux hommes pour amener une grappe de raisin, mettre ça sur leur épaule pour amener ça, pour montrer ça à Moïse. Et si vous connaissez les vins israéliens, il y a une sorte de vin, quand je suis venu à l'église il y a une quarantaine d'années, les membres m'ont fait goûter ce vin-là. C'est un vin israélien qui s'appelle le Manischewitch. Et justement, l'étiquette sur la bouteille, c'est deux hommes avec une immense grappe de raisin qui touche presque le sol. Et c'est un emblème pour Israël dans plusieurs circonstances aussi, ou pour le tourisme et tout ça. Mais c'était vrai, ils ont vu ces choses-là. C'est formidable. Regardez le verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays, dont cette grappe-là. Voici qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Mais là, après ça, ils ont commencé à dire, 10 des 12 espions ont commencé à dire, « Oui, mais c'est dangereux, il y a des géants, et puis on n'arrivera pas à prendre le pays. » Verset 26, on a vu ce verset-là. Regardez le verset 30 ici maintenant. « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. » Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » C'était quoi l'attitude de cet homme-là? J'ai l'assurance que Dieu va nous donner le royaume, que Dieu va nous donner la terre promise qu'il nous a envoyé explorer. Mais oui, la différence, c'est fantastique. Les autres ne voulaient pas y aller, même ils ont voulu s'en prendre à Moïse après. C'est incroyable. Verset 1, chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Et voulait s'en prendre aux serviteurs de Dieu. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec eux leur dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et là, ils décrièrent le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ces géants-là étaient grands. Mais écoutez, pour Dieu, les géants, c'est moins que des sauterelles. Regardez dans l'autre sens. Pour Dieu, si Dieu avait dit, je vous donne ce pays-là, il n'y avait pas à avoir peur. On l'a vu par la suite quand ils ont mené d'autres combats. C'est fantastique de voir ça. Non, Dieu nous donne des promesses infaillibles à ceux qui sont fidèles, à ceux qui sont déterminés. Proverbe 14, verset 26, vous pourrez aller voir. Proverbe 14, verset 26, la traduction exacte de ça, c'est ceci. Celui qui craint l'Éternel a une confiance solide. Craindre l'Éternel, c'est pratiquer ses lois. Celui qui pratique ses lois a une confiance solide. Et ses enfants auront un lieu de refuge. C'est ce qui est marqué dans la King James et dans la version originale. Ça, je dis, c'est un peu différent de la Louis II. Mais vous avez ici la promesse faite aux fidèles serviteurs de Dieu, ceux qui sont déterminés. Celui qui craint l'Éternel a une confiance solide et ses enfants auront un lieu de refuge. Proverbe 28, verset 1. Proverbe 28. Et le verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Formidable. Plus nous nous nourrissons du pain du ciel, plus nous prouvons les vérités bibliques pour en vivre, plus nous expérimentons de marcher avec Dieu puis de le voir nous répondre, résultat, notre assurance augmente et notre paix d'esprit augmente aussi. C'est fantastique. Et c'est pour ça que Paul a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est un encouragement extraordinaire. Et quand vous allez voir dans 2 Corinthiens 2 et le verset 14, Paul dit ceci, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Mais on doit vouloir triompher. Et on doit être déterminé. Et on doit insister auprès de Dieu. On doit crier à lui, pour ainsi dire, jour et nuit, comme il dit. Quand on applique à faire ce que Dieu dit, quand on s'applique de tout cœur à le faire, c'est que automatiquement, c'est une bénédiction, c'est une promesse. Automatiquement, ça développe en nous une assurance qu'on n'avait pas avant. L'assurance qu'on va être capable d'y arriver. Et ça nous donne le courage, la foi et la détermination nécessaires. Vous savez, je vais un petit peu plus loin avant de terminer. Si nous sommes esclaves d'une chose que nous avons de la difficulté à éliminer dans notre vie. Une chose que nous n'arrivons pas à vaincre. Et c'est le cas de tout le monde un jour ou l'autre. Il faut, je reviens à ça, il faut décider d'affronter le problème une fois pour toutes. Ne pas se taire et laisser ça là, de sorte que nos os se consument et qu'on s'inquiète et qu'on est insécure. Non, il faut l'affronter une fois pour toutes et dire, le problème, je vais le régler, cette faiblesse-là, je vais la vaincre par Dieu, mais je vais faire ce qu'il faut. Et il faut passer vraiment à l'action en faisant les gestes qu'il faut. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, s'il vous plaît. Jacques chapitre 4, on va lire le verset 8 à 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. C'est la fête des pains sans levain. Et on doit vivre selon l'esprit de la fête des pains sans levain tout au long de notre vie, jusqu'au retour de Christ. Et vous savez, la veille du retour de Christ, il y a un ministre qui m'avait déjà dit ça, celui qui m'a baptisé il y a plusieurs années, il m'a dit même, la veille du retour de Christ, je sais que je devrais me mettre à genoux parce que je n'aurais pas été parfait encore, donc j'aurais besoin encore de sa miséricorde. Ça, je vous disais tantôt, c'est une lutte de toute notre vie. Il ne faut pas se décourager, mais il faut rester attaché au cep. Alors, il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, je vous dis, c'est automatique. Si je m'approche de Dieu, il s'approche de moi. Nettoyez vos mains, pécheurs. Ça, c'est ma façon de m'approcher de lui, en plus de le supplier. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est pour ça que je vous dis qu'on doit être résolu, on doit être déterminé, on doit être ferme. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça, c'est le repentir. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je vous donne ici une recette infaillible. Si vous avez un péché récurrent qui revient et qui est extrêmement difficile à éliminer. J'ai vu l'exemple de quelqu'un à un moment donné qui a fait ça. Je connais des gens qui ont fait ça et ça donne des résultats infaillibles, des résultats probants et c'est tellement encourageant. C'est exigeant. Mais j'ai dit tantôt, il faut être zélé, il faut être déterminé, il faut vouloir. Le royaume appartient aux zélés, à ceux qui sont déterminés. Si cette faute-là qui revient, que vous avez tellement de difficultés à éliminer, qui a tendance à revenir tout le temps, la prochaine fois, décidez d'avance, la prochaine fois que je vais tomber dans cette faute-là, mon jeûne de 24 heures commence la minute d'après, à l'instant même. Et chaque fois que je vais retomber là-dedans, automatiquement, je vais commencer un jeûne tout de suite pour me tourner vers Dieu, pour m'humilier devant Lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est pas facile. C'est un défi. Je vous le donne. C'est un défi. Mais c'est une recette gagnante. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez pris le taureau par les cornes et vous allez vaincre. Vous allez vaincre, je vous dis. Dieu va voir le zèle que vous avez et Dieu va bénir vos efforts dans ce sens-là. Regardez le verset 7 du même chapitre. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si c'est un problème avec les émissions horribles qu'on voit à la télévision, ceux qui regardent la télévision, il faut le régler ce problème-là. Si c'est un problème sur Internet, si c'est un problème avec la pornographie, si c'est un problème avec le fumage, si c'est un problème avec l'alcool, quel que soit le problème, si c'est un problème avec le fait de regarder des films, la plupart des films, sinon tous à 99,999% des cas, sont un mélange de bien et de mal. Qu'est-ce que j'ai à regarder la violence? Qu'est-ce que j'ai à regarder des films qui sont peut-être gentils à un certain moment donné, mais qui démontrent l'adultère ou le mensonge ou la cupidité ou tout ce que vous voulez? Est-ce que c'est la place d'un enfant de Dieu? David dit, je mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ça fait partie d'être déterminé pour éliminer le mal de notre vie. David avait dit encore, je répète, Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Aide-moi à être honnête devant toi. Et après ça, décider de ne jamais, jamais abandonner. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est d'être déterminé, d'être zélé pour terminer la course. Hébreux 12, en terminant. Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. On va lire versets 1 à 4. Hébreux chapitre 12. Vous vous rappelez le chapitre 11? C'est le chapitre de la foi. Tous nos ancêtres qui ont vaincu, qui ont tenu bon... Abraham, qui a vu de loin, justement, la cité qui avait de solides fondements et qui a tenu ferme malgré les circonstances, malgré les difficultés, et toute la liste des autres. Et tout de suite après ça, Hébreux chapitre 12, en commençant au verset 1, qu'est-ce que Paul dit? « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, des témoins de Jésus-Christ, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Je le sais et vous le savez. Le péché nous enveloppe facilement. Mais il dit, rejetons ça avec la puissance de Dieu. Allons de l'avant, continuons à nous purifier. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards où? Sur la colonne de feu, sur la colonne de nuée. Les regards sur Jésus, qui suscite la foi, qui nous donne sa foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Le Christ va nous donner sa force. Il est le même aujourd'hui, hier qu'éternellement. Il a vaincu ça et il va vivre en vous. Il va continuer à vivre en vous si vous insistez pour qu'il agisse, qu'il vous donne sa force et qu'il vous donne sa foi. Dieu nous donne le commandement de vaincre. Quand vous regardez l'histoire des sept églises, là, dans Apocalypse 2 et 3, ça finit toujours par « celui qui vaincra recevra ceci, recevra cela ». On n'a pas le choix, mais on a les moyens d'y arriver. Mais pas mes moyens, mais les moyens de Dieu. Dieu nous donne le commandement de vaincre, mais il nous donne la force d'y arriver. Si nous faisons notre part de tout cœur, avec persévérance, le Dieu des promesses infaillibles va faire la sienne, va faire sa part pour nous amener à la vie éternelle dans son royaume. Et ça, vous pouvez être certain, c'est notre assurance absolue.